culture, les guerres de religion, la Saint-Barthélemy, les habituels, l'habituel discours stéréotypé qui ne fait jamais avancer rien, qui ne fait que ressasser. Souvent d'ailleurs, c'est devenu comment dire, des stéréotypes, on ne va pas plus loin. Et si vous interrogez la personne en question, d'ailleurs, elle n'est pas capable elle-même d'aller plus loin. Elle vous sort les stéréotypes. C'est toujours très amusant dans l'enseignement, dominicain pourrait dire, ou les collègues qui sont là d'histoire ou autres sciences qui sont là pourraient le dire de la même façon, mais on se trouve parfois en histoire, en lettres, en philosophie, confronté à tel ou tel étudiant ou élève qui vous dit, mais ça, qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'ai adopté depuis au tout début, quand on est débutant, ben, on démontre. Et puis après, on prend une autre tactique. Celle-ci m'avait été enseignée par le professeur Bernard Lugan. On demande à celui qui est en face, qui accuse, de prouver ce qu'il dit. Monsieur, vous dites l'Inquisition. Alors, qu'est-ce que l'Inquisition? Ça a commencé quand? Ça a fonctionné comment? Quels sont les noms? Citez-moi les procès, le nombre, les exécutions et tout. Et vous trouvez face à un individu qui devient ou blanc ou rouge et qui ne sait plus quoi vous dire. Bête. Alors, eh ben non, monsieur, vous prétendez connaître une question en deux mots, et dès que je vous pose, il n'y a plus rien. Donc, vous êtes bourré de préjugés que vous avez entendus, mais vous n'êtes pas capable de traiter la question. Or, malheureusement, eh bien, puisqu'on est professeur, on n'hésite pas. Moi, je la connais, donc on va en parler. Donc, on fait ça systématiquement, et ça marche. En général, d'ailleurs, on invite l'auditoire de son côté. Parce que les autres rigolent, le monde du doigt, t'es un imbécile, tu veux en savoir plus, ferme-la, tais-toi, enfin bon, vous savez, le genre de discours sympa qu'ils peuvent avoir entre eux. Bon, alors, faire dresser ce catalogue, cette comparaison, très vite, je me suis heurté d'abord pour un colloque à une impossibilité, c'est que c'est difficile. D'autre part, le sujet est délicat, et très honnêtement, quand je me suis mis à chercher, j'ai constaté qu'il y avait peu de choses, disons, de fait. Il fallait tout construire. Alors on commence par construire un ensemble de persécutions, on part du 1er siècle et on vient jusqu'à aujourd'hui. Et puis, au bout du compte, on arriverait presque à faire, comme ont fait certains historiens, le livre noir du communisme, le livre noir des persécutions contre l'Église catholique au cours de l'histoire. C'est peut-être pas forcément ce que vous attendez, ni même très, très excitant à traiter comme question d'un point de vue. Évidemment, ça fait plaisir. Quand on voit ce catalogue, on se dit, mon Dieu, ben... Effectivement, il n'y a peut-être pas grand-chose à... L'Église n'a peut-être pas grand-chose une part à se reprocher, et puis il y a peut-être beaucoup qui ont demandé pardon à l'Église. Il serait temps, d'ailleurs. Et puis, finalement, en traitant ces questions, il m'est apparu nécessaire de dresser peut-être une typologie, par époque, de ces persécutions, et d'essayer d'en trouver, à la fin, un fil conducteur, quelque chose qui puisse les réunir ou permettre de comprendre. Je dis pas que, quand je vous aurais présenté ça, j'ai résolu la question. C'est impossible. C'est trop vaste. Et mes petites et moyennes compétences ne me permettent pas d'envisager un sujet aussi vaste avec un recul nécessaire, un recul suffisant pour pouvoir porter un jugement, un jugement vraiment, on pourrait dire un jugement définitif. C'est impossible, exhaustif. Néanmoins, c'est pas impossible de tenter et d'essayer de mettre ensemble ces éléments et de voir ce qui peut les unir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'une religion, qui se définit comme religion de l'amour, de la charité, cette église, ses fidèles, ses prêtres, ont été persécutés de façon atroce au cours de l'histoire? L'église a été salie, elle a été couverte de boue. On a trouvé toutes les accusations possibles. Curieusement, d'ailleurs, on trouve toujours des accusations contradictoires. Il y en a un qui dira ça, mais un autre qui va dire l'inverse. Donc, en fait, elle se trouve toujours dans une position où elle a tort. Elle a toujours tort. Alors, il faut repartir d'une définition qui est celle du christianisme, au fond, comment ça s'est passé, très rapidement, et puis ensuite essayer de typer ces persécutions. Donc, après une introduction sur la présentation du christianisme, je verrai l'évangélisation et le choc culturel. Ensuite, je verrai l'Église face au régime, au système hérétique. Et ensuite, je verrai l'Église face au système totalitaire et révolutionnaire. Ce qui permet par là d'englober l'ensemble des persécutions dont a été victime l'Église et ses fidèles. Et ensuite, de tenter de faire une conclusion. Mais en précisant bien que c'est un essai, c'est une tentative, c'est juste une tentative. Donc, avec tout ce que peut avoir comment dire, de tout ce que ça peut comporter, parfois d'incertitude, d'éléments encore difficiles à saisir. Alors, les évangiles, repartons des évangiles, nous présentent le Christ, Fils de Dieu, qui vient accomplir une mission universelle. Cette mission universelle, ainsi a-t-il été écrit que le Christ dit qu'il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, et qu'on prêche en son nom la pénitence et la rémission des péchés dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem, le point de départ. Au moment de son ascension, saint Matthieu rapporte, allez donc dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute créature, enseigner les nations, baptiser les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en prenant tout ce que je vous ai commandé. Bon, on connaît tous, bien sûr, ces phrases. Saint Marc en fait mention, allez par le monde, prêcher l'évangile à toute créature. L'expression dans la Vulgate de tout le monde est traduite par De Mundum Universum, donc mission universelle. Hein, le terme universel donc englobe la totalité de ce monde. Ici, bien sûr, la définition de monde pour le Christ n'est pas le monde romain exclusivement. Ce matin, comme l'avait très justement fait remarquer Dominique Vien, lorsqu'on parle à l'époque du recensement dans l'Empire romain du monde entier, il s'agit bien du monde romain. Le reste n'existe pas pour les Romains. C'est en dehors, c'est le barbare, c'est l'étranger, c'est en dehors de l'Empire. Donc ici, il s'agit d'une mission universelle qui englobe toute la Terre. Comme l'a montré le père Zucchelli dans un de ses ouvrages, cette mission universelle est renforcée par le fait que le Christ ressuscité a convoqué les apôtres dans la Galilée et non à Jérusalem, c'est-à-dire au nord, dans un territoire qui est un peu marginal pour les habitants de la Judée qui, eux, se considèrent comme de vrais juifs. Alors après, on a les Galiléens, c'est un Galiléen, et les Samaritains. Le point terminal comme le point de départ, dit le père Zucchelli, de la mission de Jésus, ce n'est pas Jérusalem mais la Galilée, cette province située aux confins du monde païen sans frontières précises. Le message est d'autant plus clair si on veut bien faire remarquer que Jésus a évangélisé beaucoup plus longuement avec assiduité la Galilée, puisque c'est là que Jésus résidait à Capharnaüm. Donc tout nous montre une mission universelle, dans les faits, géographiquement, dans les paroles et dans ce que le Christ a transmis aux apôtres. Alors, obéissant à l'ordre du Christ, eh bien, les apôtres Saint-Pierre, d'abord, dans tout ce qui est la Palestine, la Syrie, Saint-Paul, dans tout ce qui est l'Asie mineure, c'est-à-dire tout ce qui est la Grèce, la Macédoine, la Thrace et l'actuelle Turquie, donc l'Asie mineure, évangélisent ces régions. Puis, durant une vingtaine de siècles, eh bien, l'Église a évangélisé, puisque l'essence même de l'Église, l'acte essentiel pour l'Église, c'est justement d'évangéliser, d'étendre l'Évangile, le christianisme. Alors en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Océanie, en Afrique, donc les confins de la Terre, ici on retracerait toute l'histoire missionnaire, et nous savons et nous avons vu que la religion du Verbe s'est répandue par le Verbe, c'est-à-dire la prédication. Jamais les missionnaires n'ont usé de force, si ce n'est à leur corps défendant dans certains cas, et malgré eux, pour évangéliser. L'Église a toujours condamné la force, la violence pour évangéliser, parce qu'elle respecte la conscience des personnes à évangéliser. Et là, en travaillant sur l'histoire missionnaire depuis un certain nombre d'années, j'ai pu me rendre compte de la vérité de cette remarque, à savoir que l'Église a toujours été prudente. Qu'il y ait eu des faux pas, ça c'est arrivé. Si l'Église est sainte, tous ses membres ne sont pas forcément des modèles de sainteté. Mais en général, l'Église ne s'est pas implantée avec violence. L'Église a reçu très vite un assez bon accueil. C'est vrai que le christianisme a progressé rapidement dans l'Empire romain. Mais certaines églises ont été souvent victimes, très rapidement, de persécutions, de cruelles persécutions, voire incessantes. Et il est vrai que la transmission de la parole du Christ semble procurer des oppositions violentes dans certains cas. Et nous en distinguons un certain nombre. D'abord, nous constatons que l'Évangile a généré un choc culturel. Notamment, l'irruption du message de l'Évangile dans une culture entraîne un bouleversement des mentalités et aboutit parfois à un rejet. Alors, soit les peuples évangélisés adhèrent au christianisme, soit ils persécutent avec violence la nouvelle église dont ils ont accepté le missionnaire au début, puis finalement après, peut-être ils se convertiront, ils accepteront. On voit souvent ce phénomène se reproduire. Vous avez aussi, bien sûr, dans le propre milieu où le Christ a prêché l'évangile, une persécution qui vient des Sadducéens du milieu des pharisiens, donc... Bon, nous verrons dans quelques instants pour quelles raisons. Nous avons aussi les persécutions de l'islam, choc culturel. Aussi celles d'Asie, les missionnaires au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle en Asie. Le second type d'opposition violente que nous constatons, c'est l'apparition des groupes hérétiques dans l'Église et qui vont se transformer très rapidement en persécuteurs. Et même souvent, d'ailleurs, au tout début, il y a la persécution par les hérétiques de l'Église. Enfin, en troisième lieu, il y a l'émergence des gouvernements révolutionnaires et de la laïcité. La laïcité, issue du courant révolutionnaire, est responsable d'un certain nombre de persécutions qui ont lieu au XIXe et XXe siècle. Nous voyons donc, en faisant un très très rapide en introduction au tableau, comme ça, l'Église a subi des persécutions plus ou moins violentes au cours des siècles, que ce soit les clercs, les églises elles-mêmes en tant qu'institution, les fidèles. Mais la question qui se pose pour nous, la problématique en quelque sorte pour faire moderne aujourd'hui, c'est au-delà du temps qui sépare toutes ces persécutions, est-ce que nous avons un lien, un dénominateur commun? C'est l'aspect, me semble-t-il, le plus intéressant de la question. L'évangélisation et le choc culturel. Christianisme et judaïsme. Nous savons que les juifs attendaient un libérateur d'Israël, mais en fait, dans beaucoup de groupes juifs, de sectes juives, il s'agissait d'un libérateur politique qui allait les libérer du protectorat romain, ce protectorat romain qui leur pesait dessus. Alors il y avait les Hérodiens qui soutenaient Hérode, qui était un collaborateur, considéré comme collaborateur par les Zélotes, qui eux luttaient contre l'occupation romaine. Et puis vous aviez les Sadducéens qui eux géraient le temple, c'était le groupe de la caste, c'était la caste sacerdotale. Le Christ fait irruption, donc je puise dans les évangiles, dans ce milieu-là, au fin 1er siècle, début 1er siècle, donc zéro. Bon. Alors, on ne va pas ergoter sur la date de zéro, c'est pas le lieu. Et vers l'âge de 33 ans, enfin 30 ans, par là, il se met à prêcher. Et qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? Je retiendrai une phrase qui m'intéresse parce qu'elle va dans le sens du propos que je traite. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est-à-dire que, tout de suite, très vite dans son message, le Christ distinguait le message qu'il apportait de toute connotation, on pourrait dire, temporelle, politique, directe. À César ce qui est à César, c'est-à-dire, vous avez l'autorité de César, et bien vous occupez de César. Moi, je ne suis pas là pour, puisque vous savez le piège qui était tendu à Jésus, soit il est contre les Romains, soit il est pour les Romains. Donc, dans les deux cas, évidemment, il était en difficulté. Et la réponse est d'une sagesse profonde, bien évidemment, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc d'entrée, il distinguait, et l'Église a tout voulu, dans ses commentaires, a voulu voir ici une distinction entre le temporel et le spirituel. Distinguo qui n'entrait pas, bien sûr, dans les catégories de pensée du monde juif de l'époque. Donc ça veut dire que le Christ juif lui-même provoquait un choc culturel très important dans son propre peuple, dans son propre milieu, dans sa propre culture. Son affirmation en plus de fils de Dieu, Christ qui prêchait un discours que n'attendaient pas les juifs, provoquait l'irritation, et bien sûr engendrait la colère des autorités juives qui n'entendaient pas changer quoi que ce soit dans l'ancienne loi. Yahvé était accaparé par les dieux, par les juifs comme étant le seul dieu des juifs, un dieu qui défendait leur intérêt temporel et leur offrait la terre de Canaan, d'où évidemment une imbrication très étroite entre le temporel et le spirituel. Le libérateur d'Israël est entendu dans un sens d'un messianisme purement temporel et réservé à Israël et à personne d'autre. Donc évidemment, le discours du Christ n'était pas admissible. Il gênait le Sanhédrin, sous autorité sadducéenne, lequel a prononcé la peine capitale contre Jésus en condamnant la crucifixion. Et ici, je me sers d'une référence incontestable, le père Puech, je ne sais plus comment on prononce, dont a parlé d'ailleurs Dominique Vien ce matin, qui est un spécialiste justement des documents de la mer morte, de toutes ces questions-là. Et qui démontre bien qu'effectivement la crucifixion est un supplice qui a été appliqué par les juifs, supplice traditionnel, utilisé jusqu'au 1er siècle. Il se trouve qu'à la suite de cette condamnation par le Sanhédrin, jugée inique par Rome, le Sanhédrin a perdu le droit de crucifier. Le droit de crucifier, d'appliquer cette peine lui a été retiré. Nous n'ignorons pas, bon, le premier persécuté, le premier martyr, ben c'est évidemment le Christ dans son propre milieu. Donc, les apôtres eux-mêmes, après la Pentecôte, eh bien, vont prêcher le message, la bonne nouvelle, le message évangélique. Et les actes des apôtres nous mentionnent, sont jalonnés de ces persécutions dont sont victimes les apôtres du Christ, notamment saint Étienne, saint Pierre, saint Paul, et on peut lire les actes des apôtres, chapitre 4, verset 1, 22, chapitre 5, verset 17 à 42, chapitre 6, verset 8, chapitre 7, 53, 12, 1, 25, enfin bon, on peut donner une liste. Je ne vais pas rentrer dans le catalogue, mais au moins déjà ces quelques éléments montrent que l'Église naît dans la persécution. Mais dans la persécution. Ce n'est pas les premiers chrétiens qui ont persécuté les membres, les représentants qui leur étaient opposés dans leur propre milieu, c'est cette caste sacerdotale, les Sadducéens, hein, et d'autres qui les ont persécutés. En l'occurrence, qui doit demander pardon ? Ces persécutions ont favorisé, bien sûr, inéluctablement, le rapprochement entre apôtres et païens. Donc on rentre dans une deuxième phase d'évangélisation où le christianisme va prendre sa dimension spirituelle et se séparer du judaïsme. Ce n'est plus un judéo-christianisme, c'est du christianisme qui se sépare du judaïsme. Nous arrivons aussi aux persécutions païennes, car en se tournant vers les païens de l'Empire, l'Église affirmait donc son caractère universel, et nous constatons que très vite, dans l'Empire romain, le christianisme se développe et gagne toutes les couches de la société, même proche de l'empereur. Hein, au 2e, 3e siècle, l'entourage des empereurs sont touchés. Hein. Fin 2e siècle, début 3e siècle. Les chrétiens, dans ce milieu de l'Empire romain, acceptent l'autorité de l'empereur et sa légitimité sans contestation. Tel que l'exprime d'ailleurs Méliton, évêque de Sardes, à Marc Aurèle. Il le dit très bien. Au fond, les chrétiens disent, ben voilà, c'est la volonté de Dieu que vous soyez là, l'Empire, et nous on est là, et Dieu nous a mis là, donc on respecte l'Empire, on respecte l'autorité. En aucun cas, les premiers chrétiens sont des révolutionnaires qui veulent mettre par terre l'Empire romain, contrairement à ce que voudrait affirmer une certaine thèse venant d'ailleurs de milieu, je crois que c'était le Grèce Nouvelle École qui avait tendance à dire ça. Puis alors, dans l'autre sens, on aurait l'accusation de l'Église qui a collaboré avec l'Empire romain. Ni l'autre de ces thèses sont justes parce qu'elles sont toujours extrémistes et que les thèses extrémistes sont toujours fausses, surtout en histoire. Alors, Tertullien affirme aussi le loyalisme politique des chrétiens dans la cité. Seulement, voilà. Si loyalisme il y a et respect de l'autorité de l'empereur il y a, hein, néanmoins, on a aussi, ici, on se trouve face à un choc culturel. Qu'est-ce qu'on a ? Le christianisme est une religion monothéiste à caractère, à prétention universelle. Et elle se heurte aux religions polythéistes romaines. Polythéistes romaines. Et le christianisme se révèle inassimilable au culte des dieux païens. Et donc heurtait de front le syncrétisme romain. Le syncrétisme religieux des Romains. D'autre part, deuxième difficulté, l'empereur romain est Pontifex Maximus, c'est-à-dire qu'il est roi, empereur de l'Empire, mais il est prêtre. Il est le grand pontife du culte impérial, il dirige le collège des pontifes. Il est le prêtre de tous les flamines locaux, de tous les prêtres, il organise le culte impérial. Or, en plus, le noumen de l'empereur, là, c'est cette âme de l'empereur, elle est divus. Et l'empereur qui est mort est considéré comme divin. Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Le christianisme refuse de comparer, de faire la confusion entre temporel et spirituel. On va aboutir à un heurt, inéluctablement. Il en découlait une confusion, bien sûr, des pouvoirs, une sacralisation de l'empereur et l'obligation du culte impérial. On voit ça sur les... On a ces textes avec toutes ces titulatures des empereurs, Pontifex Maximus pour la... etc. Revêtu la, pour la 50e fois de la puissance tribunicienne, ceci et cela. Enfin bon, ils ont tous les pouvoirs, puisque les empereurs avaient confisqué en quelque sorte tous les pouvoirs des magistrats. Et rendons un culte au divin Auguste, etc. Alors, bon, on organise ce culte. Et tout le monde doit rendre ce culte. Parce que ce culte est un culte civique. Ne pas rendre ce culte, c'est aller contre l'empereur. C'est même peut-être rejeter l'autorité de l'empereur. Donc ça devient éminemment suspect. Et pour l'Église, les catholiques, c'est impossible. C'est vouloir confondre le spirituel et le temporel. Elle ne peut pas. C'est pas le fait qu'elle se révolte contre l'autorité de l'empereur, c'est qu'elle dit non, oui, l'empereur, on veut bien le reconnaître en tant qu'empereur, on prie pour lui, on prie Dieu pour lui, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas le vénérer comme on ne peut pas lui rendre un culte. Et en plus, le christianisme obéissait à sa hiérarchie propre, l'Église, le pape, qui est une hiérarchie distincte du politique, à vocation universelle, donc choc culturel, inévitablement. Ça n'excuse pas les Romains, quand je dis ça, ça permet de comprendre, de tenter de comprendre ce qui s'est passé. Alors, il s'en suivit quoi ? Eh bien, des troubles, des persécutions. Parce que, encore une fois, eh bien, les chrétiens, on va leur reprocher d'être chrétiens, mais comme en matière de droit, il faut reprocher quelque chose qui a été fait, qui a été commis, eh bien, on va leur reprocher tous les malheurs qui arrivent à l'Empire, à la fin du IIe siècle. Bon, d'accord, il y a Néron, 64. Il y a 177 à Lyon, les martyrs lyonnais, sous Marc Aurèle. C'est pas Marc Aurèle qui a ordonné cette persécution. On a là des émotions populaires, les chrétiens commencent à être regardés de travers. Je précise que les communautés juives vivent en paix avec Rome. Aucune difficulté, aucun problème. Mais les chrétiens, eux, sont montrés du doigt. Et très vite, ce qui se passe dans leur liturgie, c'est bizarre. Ils tuent des enfants, ils les égorgent et ils les mangent. Ah, c'est l'Eucharistie, c'est présenté. Puis alors, ils doivent adorer un dieu bizarre qui est mort en croix. Alors, c'est un esclave. Alors, ça, vous imaginez, à Rome, c'est un esclave mort en croix. Enfin, c'est inconcevable. Ces gens sont quand même curieux. Ils sont dangereux, ils ne veulent pas honorer l'empereur. Ils ne veulent pas verser l'encens, hein, honorer l'empereur de l'encens. Et donc, on va rentrer dans une période de persécution de 64 à 309, à peu près. Sur 31 papes, 26 sont morts martyrs, décapités, massacrés, déportés. Pierre livré au supplice au temps de Néron. L'un en 76, Clé en 88, Clément Ier en l'an 100, Évariste en 105, Alexandre Ier en 115 sur la voie Nomentane, Sixte Ier en 225, Télésphore en 136, Higuin en 140, Pie Ier en 155. Allez, on peut continuer, on peut passer toute la liste. Antenne 236, Fabien 250, Corneille dans son exil en 253, Sixte décapité sur sa chaire épiscopale en 258, Félix Ier en 274, et j'en passe, Marcellin en 304, Marcel Ier en 309, Eusèbe en 309. Ce qui veut dire que être pape du 1er siècle au 3e siècle relevait de l'héroïsme, purement et simplement. Il suffisait d'une émeute à Rome, et c'était les chrétiens. Il y avait un esprit comme ça qui faisait que, globalement, si au 2e siècle les persécutions restent ponctuelles, elles deviennent plus systématiques au 3e siècle, parce que l'Empire traverse une période de malheur. Une période de grosses difficultés. De tous les côtés, on peut dire que le limès est traversé. En fait, représentez-vous une baignoire percée de tous les côtés qui perd l'eau et vous essayez de boucher à la fois avec 10 doigts de tous les côtés, vous n'y arrivez pas. Ça continue de couler. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut essayer de modifier, de faire quelque chose. Eh bien non, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez l'empereur qui part d'un côté. Mais quand il part d'un côté, ça revient de l'autre côté. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, puisque cet empereur est un incompétent, de l'autre côté, on va nommer un empereur. Alors les soldats nomment un empereur nouveau, et c'est celui qui arrivera plus vite à Rome se faire reconnaître par le Sénat. Mais bien sûr, le Sénat ne devient plus qu'une chambre d'enregistrement de l'empereur au passage. Alors coucou, nous voilà, on arrive, vous nous reconnaissez, c'est moi qui suis l'empereur. Terminé. D'ailleurs, voyez-vous, les dieux m'ont désigné. J'ai rêvé ceci, c'est là, bon, et puis on s'en va, on va ailleurs. Mais on n'a pas le temps de faire autre chose. Et on a cette succession d'empereurs-soldats qui essayent de se battre tant qu'ils peuvent. Il y en a certains d'ailleurs qui durent à peine 2 ans, d'autres qui se noient au retour d'une campagne, donc on a désigné un autre, ainsi de suite. Et bien sûr, tout ça, c'est de la faute des chrétiens, il n'y a pas de problème. Si l'Empire, c'est que les dieux ont abandonné, on a laissé les chrétiens, le christianisme se développer, c'est de notre faute. Les dieux païens se vengent. Donc il faut sacrifier les chrétiens. Et c'est ce qui va se passer. Seulement, selon un rescrit de Trajan à Pline, on ne recherche pas systématiquement les chrétiens. On ne les recherche pas systématiquement en tant que chrétiens. S'ils sont dénoncés, oui. Alors il faut le faire renoncer, soit qu'il encense le dieu, soit qu'il écrive qu'il renonce à son... On a les Turiféries, les Belatiki, etc. Bon. Ces persécutions sont atroces. Persécution d'Ès en 250, persécution valérienne en 257-258, persécution de Dioclétien la plus dure en 303. Épouvantable persécution. Faire un bilan, c'est difficile. Quelques milliers de chrétiens, certainement. Des centaines de milliers difficiles. On n'a pas de chiffres. Hein. Donc on peut spéculer, hein, si l'on veut. L'édit de Milan en 313 met fin à définitivement aux persécutions. C'est Constantin. L'empereur est favorable aux chrétiens et il estime que le christianisme, puisque le raisonnement de Constantin est suivant. D'abord, sa mère, Sainte Hélène, est chrétienne. D'autre part, il est, lui, proche de son père Constance Chlore, lui aussi n'est pas opposé aux chrétiens. Alors, il se trouve empereur d'Occident, Auguste d'Occident, pendant que Licinius est Auguste d'Orient. L'empereur, on a deux empereurs. Il faut s'y habituer, d'ailleurs. C'est le résultat de la tétrarchie de Dioclétien, de mettre quatre empereurs. Deux Augustes, deux Césars. Enfin, chaque Auguste est flanqué d'un César. Et quand Auguste disparaît, le César prend la place, devient Auguste, et ainsi de suite. C'est mon problème, ça n'a pas marché longtemps, ce système, et c'est Constantin qui, y voyant sa part gâteau disparaître, se dépêche, et il a un certain génie, il gagne. Il emporte une partie du morceau. Et par la victoire sur Maxence en 312, avec Licinius, eh bien, c'est la paix constantinienne sur l'Empire pour les chrétiens. D'autant plus, constate Constantin, que finalement, des soldats sont chrétiens, beaucoup de gens sont chrétiens, pourquoi ne pas reconnaître que le christianisme est un fait, et que finalement, si ces chrétiens se développent, c'est que leur Dieu est puissant, et qu'il les protège, et que nos dieux païens, ben, c'est peut-être pas si efficace que ça. Donc, il y a lieu de prendre acte de cette chose-là. Donc, dit Constantin, pour avoir la faveur de tout ce qui nous céleste ces jours, nous donnons aux chrétiens la liberté de culte, nous leur rendons leur bien, etc. Bien. Tout va bien pour les chrétiens dans l'Empire romain à ce moment-là. Ça va très mal pour les chrétiens qui sont développés du côté des Perses. Parce que Constantin, lorsqu'il pacifie l'Empire, agit de même sur les Perses, en disant aux Perses qu'il est interdit de toucher aux chrétiens. Alors, on ne touche pas aux chrétiens. Seulement, lorsque Constantin meurt, le roi Chapour II, en 309-379, va prendre des mesures vexatoires contre les chrétiens. Hein, c'est un roi païen. Et ça va dégénérer en persécution. Persécution d'une atrocité sans nom. Hein, si terrible que certaines sources parlent du chiffre de 16 000. Alors, peut-être que le chiffre est exagéré, mais ça veut dire que la persécution fut très dure. Comment ne pas évoquer, pour rester dans des persécutions païennes, celle du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, du côté de l'Asie, avec les missionnaires. Hein, ce choc culturel que provoquent les chrétiens quand ils arrivent dans cet univers bouddhiste, hein, où l'empereur est un demi-dieu quasiment, des cultures à prétention universelle, et où là encore on a une confusion, d'ailleurs souvent au niveau du pouvoir, entre le pouvoir spirituel et temporel. Et le christianisme provoque un nouveau choc. Donc voyez-vous, ici, avec le paganisme, comme avec l'islam, choc culturel, mais en même temps, un christianisme qui ne veut pas intervenir sur le plan politique temporel, mais qui chaque fois se heurte à des cultures chez qui on a cette tendance à confondre le spirituel et le temporel. L'islam, choc culturel aussi. Mahomet, fondateur de l'islam, a concentré dans ses mains les pouvoirs, bien sûr, spirituels et temporels des chefs de l'islam, donnant naissance à un type de régime totalitaire, une forme de théocratie. Une théocratie, c'est une théocratie. Toute opposition religieuse n'est pas tolérée. D'ailleurs, la preuve, c'est que Mahomet, dès le début, ceux qui s'opposent à lui, les fait massacrer. Hein, c'est un fondateur de religion extrêmement violent. Il rejette avec violence le christianisme, qu'il a connu d'ailleurs dans le milieu de l'Arabie, puisqu'il y avait des Arabes chrétiens. Le Coran lui-même comporte des jugements féroces à l'égard des chrétiens, qu'il appelle les associateurs. Alors le chrétien qui ne croit pas que le Christ est fils de Dieu, c'est un bon chrétien pour l'islam. C'est un prophète, le Christ. Pour celui qui considère que le Christ est le fils de Dieu, c'est un associateur. Donc là, ces gens-là, il faut les supprimer. Et ils sont rangés dans la catégorie des bêtes de somme. Et ils doivent être massacrés quand on les rencontre. C'est ce qu'on appelle le djihad ou la guerre sainte. Pour ça, je ne t'utilise pas mes propres fantasmes quand je parle de ça. Je suis allé prendre tout simplement les ouvrages bêtes, c'est tout bête, hein, de les collections universitaires qui nous parlent de l'islam. Et puis voilà, je n'ai aucune compétence particulière en islam, mais c'était pour faire avancer mon propos. Et il est un des commandements, c'est un des commandements de Mohammed, cette guerre sainte. Cette guerre sainte, c'est la promesse du paradis aux combattants, hein, et qui doit avoir des gardes pour personne, ni femme ni enfant, hein. Et les femmes et les enfants qui seront gardés seront vendus comme esclaves, comme bêtes de somme. Dans les régions chrétiennes qu'ils envahissent, ils imposent le statut du dhimmi, le statut de conventionné. C'est un statut de citoyen de seconde zone, mais vraiment de seconde zone. Ils doivent payer un tribut, l'impôt du vainqueur imposé au vaincu. Ils doivent bien sûr... Alors, ça se double après de mesures vexatoires, porter éventuellement une étoffe jaune sur les épaules, se raser devant de la tête, clouer sur les portes une image du démon. Suivant les califes, ces mesures étaient durcies ou assouplies. Et les entraves au culte étaient nombreuses. D'autre part, les processions et enterrements s'achevaient souvent en émeute antichrétienne, parce que vous aviez là la populace assemblée qui mettait à sac les églises, qui incendiait tout, hein. Et souvent l'imposition brutale de la charia, c'est-à-dire la loi sociale religieuse de l'islam sur les chrétiens. Impossible d'y échapper. Beaucoup de chrétiens ont connu ce sort épouvantable et qui fut variable suivant les califes. Après Mahomet, c'est les fameux quatre califes, hein, qui, donc c'est l'égir, hein, la conquête, n'est-ce pas? Et entre 632 et 650, sur les quatre premiers califes, c'est la conquête de l'Arménie, de la Syrie, de la Palestine, la Perse et l'Égypte. Alors, parlez donc aux Arméniens aujourd'hui de leur histoire depuis l'arrivée de l'islam chez eux, c'est très douloureux, parce que les Arméniens ont quand même été victimes d'un génocide par les Turcs au début du siècle. Génocide qui commence à être reconnu et encore... On pourra en parler à l'occasion. Alors, en Égypte, ça me semble être l'exemple. J'aurais pu prendre la Palestine, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais l'Égypte est un bon exemple. Les chrétiens d'Égypte vont vivre un véritable calvaire, une véritable persécution épouvantable. Ils seront écrasés d'impôts. Le poids des impôts est tel, sous le calife sultan en Égypte, que progressivement l'Égypte, qui était une province extrêmement riche, en quelques années devient une province... détruite totalement, dans la misère la plus noire, la plus complète, régression de l'irrigation, diminution des paysans et des surfaces cultivables. La révolte des chrétiens, la ruine des chrétiens coptes entraînera 6 révoltes en 725, 739, 750, 752, 767, 73. La dernière, celle de 830, s'achèvera par une répression et un massacre horrible de tous ces pauvres gens qui ont été acculés à la misère par l'oppresseur, par celui qui les a occupés. L'église arménienne sera détruite et les princes, le calife Walid, fait brûler vif dans une église tous les princes chrétiens arméniens. Puis en 788 commencent les persécutions contre l'église arménienne, ses chefs et ses fidèles. Le calife Moutawakil, qui alors là est très connu dans l'histoire comme un persécuteur fanatique, déclenche... d'atroces persécutions contre les chrétiens arméniens. En 852, le turc Boga avait ordre de réduire l'Arménie par la faim, le glaive, la captivité. Il y a bien un plan de destruction contre les chrétiens. On appelle ça purification ethnique aujourd'hui, génocide, enfin on emploie beaucoup de termes aujourd'hui. Ils n'ont pas existé dans l'histoire, par hasard. Qui doit demander pardon? La répression va tourner la guerre sainte. Il y a eu de nombreux martyrs, oui. Et puis vous aurez plus tard, au XIe siècle, la progression des Turcs Seldjoukides qui a déclenché les croisades et le massacre des Arméniens. Les Arméniens doivent émigrer vers la petite Arménie. Et là, ils appelleront, ces Arméniens seront heureux de voir arriver les croisés. La justification de la croisade, s'il en fallait une, elle est là, en Arménie. L'empereur byzantin, bien sûr, a appelé, on avait parlé un peu ce matin, mais l'empereur byzantin, quand il voit arriver les latins, n'est-ce pas, d'abord qu'il considère comme des sous-hommes, comme des personnages grossiers, parce qu'il n'y a que les Grecs qui sont intelligents, c'est connu, les barbares, ces gens-là, commence à avoir peur, il voudrait que Godefroy de Bouillon prête serment, enfin c'est... Godefroy de Bouillon, il est venu pour le pape, il n'est pas venu pour l'empereur, mais là, évidemment, on essaiera de... temporiser les compromis, mais Byzance n'aidera jamais les croisés. En revanche, l'Arménie sera toujours alliée des croisés parce que eux, ils savaient ce que c'était localement. L'Empire byzantin a perdu des terres, a un peu souffert, mais enfin, c'était pas la situation des Arméniens. Donc encore une fois, ici, face à une culture différente, un choc culturel, mais un régime aussi qui confond le temporel et le spirituel, théocratique, et qui ne peut supporter un autre universalisme chrétien qui est indépendant, religieux qui est indépendant, mais qui ne considère pas, qui n'intervient pas dans le politique. Et face à l'islam, comme pour d'ailleurs les païens et tout, c'est une forme de contre-pouvoir. Mais ils n'ont pas compris qu'ils n'intervenaient pas dans le politique. Et quand il y a cette confusion religieuse et politique, un autre universalisme en face, il devient dangereux au bout de quelques temps. Deuxième aspect, l'Église face au régime hérétique, au système hérétique. Eh bien, d'abord, nous rencontrons le totalitarisme de l'État arien, qui débouche sur la déportation des catholiques. Bien sûr, nous connaissons tous la crise arienne en Orient. Crise arienne en Orient vient d'Arius, bon, on ne reviendra pas sur cette hérésie christique, une des premières grandes hérésies fondamentales, hein, qui se terminera par le Concile de Nicée. N'empêche que vous avez la persécution de saint Athanase, des chrétiens fidèles pendant quand même près d'un siècle, avant que l'arianisme s'éteigne définitivement, les empereurs intervenant par erreur dans ces questions religieuses. Là encore une fois, hein, ici c'est pas parce que l'Église a confondu le temporel et le spirituel, c'est parce que l'État intervient dans le religieux, là il ne doit pas intervenir. Saint Ambroise de Milan le dira à Théodose dans les années 380-90. Vous êtes le glaive du dehors, mais vous n'avez pas mission d'intervenir dans l'Église, vous restez au porche. Le dogme, c'est nous. Vous n'avez rien à faire dans l'Église. Et quand l'empereur Théodose massacre 7000 prisonniers qui sont des païens parce qu'ils sont païens, Théodose lui dit, vous ne rentrerez dans l'Église que lorsque vous aurez fait amende publique, vous aurez demandé pardon public pour votre crime, pour votre péché. Donc on a là cette séparation entre le temporel et le spirituel qui est une garant pour le citoyen, pour l'habitant, pour le sujet. Parce qu'il n'y a pas cette confusion qui fait que quand un pouvoir a tout en main, il peut tout faire et il confond tout. Et ici, c'est ce qu'on a avec les Ariens. Ces Ariens qui sont ces invasions barbares, la Gaule romaine, gérées par des rois barbares. Je passerai assez rapidement pour ne pas rentrer dans les détails, mais Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, qui s'entend assez bien avec Théodoric II, roi wisigoth, au début, puis les relations vont se gâter avec son frère Euric, roi, à la fin du 5e siècle. Arien fanatique, il semble à vouloir asphyxier l'Église catholique, au dire de Sidoine Apollinaire. Il en témoigne une lettre à Saint Basile d'Aix. Bordeaux, Périgueux, Rodez, Limoges, Gabale, Éose, Bazas, Comminges, Auch et bien d'autres villes encore dont les pontifs ont été moissonnés par la mort sans qu'on ait désigné de nouveaux évêques pour conférer les ordres mineurs, ont vu s'éteindre au loin l'image de ces ruines spirituelles. L'absence de tête entraîne une désaffection bien sûr des fidèles. Il y a une volonté d'asphyxier l'Église ici. Cette Église va-t-elle disparaître ? L'évêque fustige d'ailleurs la lâcheté de certains. Qu'il me soit permis de dire, sans manquer de respect aux évêques, je pleure sur les âmes livrées à l'ennemi, qui profitent du sommeil des pasteurs pour fondre sur les brebis abandonnées. C'est un peu d'actualité ça aussi. En 470, Euric va piller et envahir la Provence. Faust, l'évêque de Riez, nourrit des populations, les secours, les tentes de les apaiser. Mais ici, on a une volonté quand même de ces Ariens, n'est-ce pas, de ces rois Ariens, de vouloir asphyxier l'Église. Plus dur, les Vandales en Afrique. Les Vandales sont des hérétiques ariens, mais fanatiques, mais vraiment fanatiques. Et ils sont très violents. En 483, ils déportent plusieurs milliers de chrétiens. Victor de Vita, dans son Historia Percussionis Vandalica, rapporte un épisode dramatique. Alors je cite, je ne commenterai pas ces propos, parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Vous pouvez faire des relations avec aujourd'hui, et encore une fois, vous demandez qui c'est qui doit demander pardon dans certains cas. L'ennemi cherche les réduits les plus sordides, on place des sentinelles aux portes, on les tourmente gravement. Les catholiques sont entassés dans des conditions d'hygiène atroces. Dans cet entassement, il n'y avait pas moyen de s'écarter pour satisfaire ses besoins naturels. Sous l'effet d'une nécessité pressante, ils faisaient leurs excréments et urinaient sur place. L'affreuse puanteur était alors un tourment pire que tous les autres. Et malgré leurs souffrances et les menaces des morts, ils chantent un hymne au Seigneur. Premier camp de déportation, si l'on veut. Un camp de déportation à un camp de la mort. Il n'y a pas d'autre mot. Ça marchait comme ça sous le nazisme, ça marchait comme ça sous tous les régimes communistes. Ainsi, pour les catholiques, les Vandales, les hérétiques ariens ont mis en place donc un système de supplice et de déportation. Ici, on a une halte qui est décrite, et qui fait penser effectivement à ces camps de la mort, menaces, humiliations, dégradations de la personne humaine. Et une pierre, une mosaïque d'Oupena, en Tunisie, qui est au bord d'une route, nous dit ceci. Pierre, Paul, Saturnin prêtre, Paul, Claire, Lucille, qui souffrirent leur passion le 5 août et dont les reliques furent déposées le 8 novembre. Mosaïque postérieure à 533. Donc des martyrs qui ont fait l'objet d'un culte particulier par les chrétiens. Sautons quelques siècles pour essayer d'analyser ce problème de persécution avec d'autres hérétiques, les protestants. Les protestants, eh bien, je donnerai pour titre « Théocratie et justification de la persécution ». Alors, eh bien, il y a la justification, n'est-ce pas, avec la grâce et tout, mais justification de la persécution. Je prendrai pour base l'historien universitaire Guy Bechtel, qui vient d'écrire un ouvrage, enfin, qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, qui s'appelle « Les sorcières en Occident ». Cet ouvrage qui est énorme, qui contient 500 pages, est fourmi de renseignements, de choses intéressantes. Je vous dirai dans quelques instants. Mais pour une fois, il pose les bonnes questions sur le protestantisme. Enfin, un historien qui a le courage de poser les bonnes questions. Voici ce qu'il dit. Furent-ils vraiment les défenseurs de la liberté de penser avant que leur propre liberté fût mise en danger? Furent-ils vraiment les adversaires des persécutions religieuses avant d'être eux-mêmes durement persécutés? Pacifiques, ces fous de Dieu, se ruant dans les églises pour y briser les images de la Vierge et des saints, criant que le pape était l'antéchrist? Le premier mouvement du protestantisme semble plutôt être inspiré par une franche intolérance. J'ai cité Guy Bechtel. Et il conclut que sa doctrine ne l'était pas moins. Peu d'élus. En 1528, une Vierge à Paris est cassée. François Ier furieux fait une procession réparatrice, pieds nus dans Paris, avec cierge, et vient remplacer la statue. 1534, l'affaire des placards à Versailles. Elle est connue, cette affaire des placards. A trempé dedans un clerc, il faut bien dire, de culture minable, de seconde zone, qui s'appelle Calvin, et qui va avec tout courage fuir à Genève, bien sûr. Et cette affaire des placards, c'est que carrément sur même la porte de la chambre du roi est placardée des insultes contre la messe et la papauté. François Ier, qui avait une attitude assez, aujourd'hui nos étudiants, nos élèves diraient cool, vis-à-vis des protestants, sympathique, enfin il n'y a rien de particulier contre, cet aspect va donner signal de la répression royale. C'est-à-dire que François Ier ne fait plus rien pour protéger les protestants. Répression qui se traduit par des poursuites judiciaires, bien sûr. Mais la réalité de l'intolérance protestante, dans la lignée de Calvaire et de Luther et Calvin. Oui, parce qu'en inversant, ça fait Luther et Calvin. Bon, ça fait Calvaire et Lutin. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas raté une fois, et là, voyez-vous, j'en recommence. La digestion qui est difficile. Alors, dans la lignée des Luther et Calvin, va s'exercer une répression inouïe. Voici ce que écrit Luther. Si le clergé ne suit pas la voie que je lui trace, je souhaite non seulement que ma doctrine amène l'entière destruction des couvents et des abbayes, mais que de mes propres yeux je puisse un jour les voir réduits en un monceau de cendres. Ouais. Luther a été entendu. Nous recensons des violences et exactions contre le clergé, les édifices et objets de culte dans près de 129 villes entre 521 et 1608, tant en Allemagne qu'aux Pays-Bas, en Suisse et en France. Dans 129 villes, ça veut dire bien sûr des églises détruites. Il vous suffit d'aller d'ailleurs à Lyon, à côté de la cathédrale Saint-Jean, et de voir l'ancien baptistère Sainte-Croix à l'église Saint-Étienne, c'est une destruction des protestants. Les statues qui ne sont plus, les statues des églises romanes, gothiques qui n'y sont plus, c'est les protestants, c'est pas la Révolution. La Révolution a commis autre chose. Enfin, là, ça sont les protestants. Des archives historiques ont été brûlées, détruites. Les années 1560 à 1570 voient en France une flambée de fanatisme et d'obscurantisme protestant. Carrément. C'est ce qu'on appelle une révolution culturelle, n'est-ce pas? Abbayes et églises sont saccagées. Révolution culturelle. Les archives de l'époque sont remplies de témoignages et plaintes sur les ravages causés. Il suffit d'aller dans les archives. Des archives historiques ont été brûlées, détruites. Les années 1560 à 1570 voient en France une flambée de fanatisme et d'obscurantisme protestant. Carrément. C'est ce qu'on appelle une révolution culturelle, n'est-ce pas?
Habillé et Guy sont saccagés. Révolution culturelle. Les archives de l'époque sont remplies de témoignages et plaintes sur les ravages causés. Il suffit d'aller dans les archives. Je me souviens moi-même, tout jeune étudiant, n'est-ce pas, en maîtrise, travaillant sur un archevêque de Lyon et cherchant des documents d'archives dont c'était le Moyen-Âge, 14e siècle, ne trouvant plus des documents et les archivistes avaient noté « brûlés lors des guerres de religion ». Les protestants ont brûlé, alors des tas de documents nous manquent. Les 19 et 20 octobre 1561, 800 Huguenots attaquent les catholiques de Montpellier. C'est la fameuse Saint-Michel. La Michelade, on l'oublie celle-ci, hein. La Michelade c'est antérieur à la Saint-Barthélemy. L'étude des procès verbaux révèle un massacre que rien n'excuse et qui s'élève à 250 catholiques. Au cours de ces années sanglantes, des atrocités des armées des princes protestants arrachent ces mots au pasteur Puot. Ce n'étaient que des soldats, c'était des tigres que... ce n'étaient plus des soldats, pardon, c'était des tigres que l'ivresse de sang mettait hors d'eux-mêmes. J'ai des pasteurs qui s'inquiètent, ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Les princes qui sont passés au protestantisme n'ont aucune difficulté, du coup, pour justifier la répression contre les catholiques. Ils avaient une doctrine servie, comme ça, toute chaude, sur un plat. Que déclarait Wycliffe, précurseur du protestantisme ? Toute juridiction cléricale dérive du roi, et il lui appartient de corriger les abus dans le gouvernement de l'Église. Une Église nationale réformée et gouvernée selon le droit biblique doit se substituer à l'Église hiérarchique dominée par la curie romaine. Confusion du spirituel et du temporel. Dans la lignée de Wycliffe, Luther déclare qu'étant donné que le glaive est institué de Dieu pour punir les méchants, protéger les justes et garder la paix, ça prouve avec assez de force que le fait de faire la guerre et de massacrer est également institué par Dieu. Institué par Dieu. Le protestant juif Zwingli affirme que l'Église et l'État ne sont pas deux communautés séparées, mais une seule et même communauté, sous le gouvernement divin, souverain de Dieu, représenté bien sûr par le prince. Donc le prince a les deux glaives. Pour les fondateurs de la réforme, le prince incarne Dieu au temporel et au spirituel. La théorie des deux glaives, concentrée dans les seules mains du prince, donc l'État, n'a jamais été formulée avec autant de force et de cynisme. Or, en rejetant la papauté, en transférant la responsabilité de l'Église au prince, le protestantisme cléricalisait l'État et refusait le sacerdoce des prêtres, il laïcisait l'Église. L'État protestant cléricalise l'État, il laïcise l'Église. C'est grave, confusion. Si l'on rajoute l'individualisme et le libre examen face aux saintes écritures, les incantations délirantes de Luther contre la papauté sont compréhensibles. Ainsi armé, l'État protestant devenu hérétique, théocratique, ne pouvait rentrer que dans la logique de persécution contre les catholiques, du moment qu'en plus Luther justifiait les massacres. En Angleterre, le passage de la couronne au protestantisme pour des raisons matrimoniales, enfin c'est l'anglicanisme et puis ça va devenir protestantisme, aboutit en 1534 à l'acte suprême, où le Parlement anglais fait du roi le pape de l'Église anglicane. Et vous en connaissez la suite. Le roi devenait chef suprême sur terre de l'Église d'Angleterre. Le roi est pape. Il pouvait réprimer l'hérésie, excommunier tout usage, coutume et loi étrangère et toute autorité étrangère. Ça vise qui, toute autorité étrangère? Le pape. Par le deuxième acte, tout sujet devait prêter serment au roi. Le troisième acte considérait comme trahison le fait de dire que le roi était schismatique, hérétique et tyran. Ce qui confirme bien d'ailleurs que le roi est schismatique, hérétique et tyran. Thomas Cromwell, conseiller. Alors Thomas Cromwell, c'est. Comment dire, l'abruti de base, quoi, si vous voulez. Pas d'autres termes, en quelque sorte. Le minable, le raté qui est arrivé, on ne sait pas trop comment, qui va conseiller le roi, qui n'était pas un imbécile, loin de là, qui était un type intelligent, qui avait des connaissances extraordinaires, mais ça va lui permettre de broyer Thomas More. Le seul qui refuse. Et le problème, c'est quand Thomas More ne parle pas, ça s'entend dans toute l'Europe. Parce qu'il ne parle pas sur le divorce. Il ne dit rien. Donc, alors on lui dit, mais qui me dit mon consent ? Il dit non, pas du tout. C'est la loi ne me dit pas de. C'est pas parce que je dis rien que je consens. Vous devriez déduire autre chose. Il y a ce procès magnifique, n'est-ce pas, où Thomas More va se libérer, enfin. Au fond, c'est. En plus, Thomas Cromwell, qui est un protestant, secrétaire du roi, est admirateur de Machiavel. Tout se rencontre dans cette renaissance, finalement. Cette renaissance est une vraie régression, par certains côtés. Guy Bechtel le dit. Et on pourrait le démontrer de plusieurs façons. Donc, le cardinal Fischer, saint Thomas More, meurt martyr, victime de leur attachement au trône de Pierre. Et finalement, le Royaume-Uni se présentait comme un régime théocratique et totalitaire. Sous Édouard VI, Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, modifie radicalement le sens de la liturgie de la messe. Or, de nombreux fidèles n'acceptent pas et se mobilisent pour défendre la messe traditionnelle. Ça sera une insurrection d'une ampleur extraordinaire qui se terminera par le massacre et la torture atroce de tous ces fanatiques, n'est-ce pas, qu'il faut supprimer. Hein, l'évêque ayant donné, bien sûr, Cranmer recrute des mercenaires étrangers pour faire massacrer ces chrétiens stupides qui défendent leur messe. Entre 1649 et 1660, l'Angleterre rentre dans la phase républicaine avec Oliver Cromwell, dictateur, les têtes rondes, vous savez, et ce protestant puritain va déclencher l'épuration de l'Irlande, déportation des femmes d'un côté, déportation des hommes, des enfants, le laminage de l'Irlande, qui doit demander pardon encore une fois. Là ne s'arrêtent pas les méfaits intellectuels des humanistes, des réformés. Je vous ai dit, Guy Bechtel a écrit un ouvrage sur une question mal connue, sorcière en Occident, la destruction de la sorcellerie en Europe, des origines au Grand Bûcher. Il constate que réclamer le retour à la Bible, et la Bible seule, prise dans une interprétation littérale, comme le voulait Luther, signifiait le rejet de quantité de canons de l'Église, et notamment le canon épiscopique, qui est un vieux canon de l'Église, qui tenait la sorcellerie pour un produit de l'imagination. C'est une histoire de gens farfelus, de gens qui ont des imaginations, et qui avait empêché toute poursuite sanglante. C'est-à-dire que jamais l'Église n'a poursuivi la sorcellerie. C'est faux. Guy Bechtel le démontre. Jamais l'Église n'a poursuivi la sorcellerie. Que la sorcellerie soit l'invention d'intellectuels qui pouvaient être catholiques, oui, de gens qui sont passés par les universités, c'est quelque chose qui se met en place à la fin du Moyen-Âge. Et très vite, ces intellectuels, quelques intellectuels irresponsables, vont créer ce mythe de la sorcière du sabbat, de la sorcière sur son balai, qui s'en va la nuit, d'ailleurs passe par la cheminée, parce qu'elle s'enduit d'un produit, d'un onguent qui fait, elle passe par la cheminée, et en avant, elle va se balader quelque part dans la forêt, voir le diable, et alors je ne vous décris pas tout le reste, parce que là, on rentre dans le scabreux, et quelque chose d'assez, d'assez un peu répugnant. Mais il y a une invention là-dessus. Et entre 1480 et 1670, sur près de 50 000 sorcières brûlées, 85% d'entre elles l'ont été dans les régions où a eu lieu la réforme. 45 000 sorcières ont été brûlées dans des régions où il y a eu la réforme. C'est-à-dire toutes les régions liées au Saint-Empire, l'Allemagne d'aujourd'hui, la Suisse et ses environs, l'ancienne Lotharingie, l'Angleterre et la Scandinavie. Dans ces secteurs, tribunaux civils, catholiques et protestants se sont révélés d'une insoutenable cruauté vis-à-vis de ces femmes. Et il faut noter une très peu de bûchers en France, très très peu. Pourquoi dit Bechtel ? Parce que la France est l'un des états les plus modernes et centralisés à l'époque, donc n'importe quel petit juge local ne peut pas faire n'importe quoi. Et Colbert, Louis XIV, intervient. En Espagne et au Portugal et en Italie, pourquoi il y a peu de sorcières? Parce qu'il y a l'Inquisition, et que les inquisiteurs ne sont pas des imbéciles et qui ne recherchent pas la sorcellerie, qui s'en foutent, ils s'en moquent. Des voix s'élèvent contre ça, des jésuites, des membres d'église, même la papauté, attention, on fait n'importe quoi. Et il faut noter, chose intéressante, que là où le pouvoir spirituel et temporel était bien distinct, il y a eu très peu de chasse aux sorcières. Or, Guy Bechtel ne sait pas comment expliquer ces bûchers de sorcières. Il évoque tout, la sociologie, la climatologie, la psychologie, tout. Une seule des hypothèses qu'il n'aimait pas, c'est celle que j'essaye d'émettre là, c'est ce problème de confusion temporelle et spirituelle. Alors, effectivement, il y a eu quelques états catholiques qui ont été atroces vis-à-vis des sorcières. Ce sont les princes archevêques d'Allemagne qui dirigeaient un état. Et là, oui. Là, effectivement, il y a eu des crimes qui ont été commis vis-à-vis de ces sorcières. Mais là, on a une confusion entre temporel et spirituel. Il reste la traite négrière au XVIIIe siècle, qui est un fait massivement anglais et néerlandais. Pays protestant. Liverpool représente à la fin du XVIIIe siècle 70% du marché des esclaves. Soit le plus grand port négrier du monde avec 100 navires par an à destination de l'Afrique. Faudrait que les habitants de Liverpool demandent pardon. Qu'en Angleterre, on demande pardon pour l'esclavage. Parce que, s'il vous plaît, toutes les condamnations de l'esclavage par l'Église, elles sont nombreuses. Je ne vais pas en faire un catalogue. Ne serait-ce que le pape Urbain VIII qui condamne les esclavagistes et qui défend les jésuites qui ont fondé les réductions Guarani en Amérique latine. Isabelle la catholique a interdit l'esclavage des Indiens. C'est interdit. On pourrait en citer des quantités de ces exemples. Le pape Paul III a fait une bulle pour dire que les Indiens étaient des hommes et qu'il était interdit d'attenter à leur dignité, à leur bien. à leur liberté. Qui c'est qui est archaïque là-dedans? Et qui c'est qui doit demander pardon, encore une fois? De qui se moque-t-on? Ignorance chez certains, peut-être, oui. Malhonnêteté chez beaucoup, oui. Les jésuites eux-mêmes qui ont lutté contre l'esclavage ont été victimes. Or, les réductions jésuites, cette magnifique œuvre missionnaire en Amérique latine, a été détruite. Détruite, qui a détruit? Pombal, ministre anticlérical, ami des Lumières, franc-maçon, esclavagiste. Voltaire a-t-il dit un mot? A-t-il protesté? Ces grandes consciences de l'époque, si chatouilleuses, dès qu'on attentait à leurs petits droits, leurs petits bienfaits, leur petit bien-être, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Personne n'a rien dit au XVIIIe siècle. Alors quand on utilise ce genre de discours vis-à-vis de Pie XII, puisqu'on a fait un colloque l'an dernier là-dessus, ou d'autres, pourquoi ce discours n'est-il pas appliqué de la même façon partout? Malhonnêteté. Oui. Parce qu'il n'y en a qu'une qui a tort, c'est l'Église catholique. Voilà. Alors on inventera. On la salit. Comme les révolutionnaires, on salit la Vendée, auquel je vais venir. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Sur cette secte des Lumières, j'appelle ça une secte. Et qui nous amène d'ailleurs à une autre secte, et à ma troisième et dernière partie, qui est la secte qui est, bien sûr, sont les révolutionnaires. L'Église face au régime révolutionnaire et totalitaire. La Révolution française, dans son déroulement, nous savons, a abouti au triomphe d'un club, celui des Jacobins. Ce club des Jacobins, ce sont des intellectuels, bien sûr. Beaucoup sortent de Louis le Grand, sont avocats, sont des juristes éminents, sortent de la bourgeoisie. Maximilien de Robespierre, petite noblesse locale. Danton, c'est un avocat qui sort de Louis le Grand. Camille Desmoulins, un avocat. Billaud-Varenne, un avocat. Tous ces gens-là font partie du club des Jacobins. Il faut payer cher pour être membre du club des Jacobins. Évidemment, on n'est pas les crados des cordeliers. Les cordeliers avec Hébert, Marat, le psychopathe sanguinaire qui demande que des têtes tombent sans arrêt. Là, c'est les crados. Là, c'est la révolution de la rue, la révolution qui sent mauvais. Là, avec Robespierre, c'est la révolution en perruque de la bonne bourgeoisie. N'est-ce pas, qui s'est bien imbibé de Rousseau. Ce sont des dangereux, ces gens-là. Pourquoi? Parce que dans la Révolution, c'est eux qui triomphent. C'est Robespierre qui a triomphé. Robespierre qui incarne la Révolution. Triomphe de la pensée philosophique, la Révolution. Triomphe d'une société de pensée qui va imposer sa doctrine socialisante aux Français. Cette société, c'est quoi? C'est une machine qui, pour vivre, doit avaler ses enfants, avaler ses propres enfants. Tous sont suspects, grâce à quel système? Le système de la terreur. Comité de salut public, comité de sûreté générale. Qu'est-ce un suspect? Un suspect, c'est quelqu'un qui est considéré comme suspect. Tout suspect étant suspecté d'être suspect, suspect, donc il sera arrêté, forcément. Son suspect, dit l'article 8 de la loi complétée de septembre 1793, sont suspects ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont aussi rien fait pour elle. Pas de problème, tout va bien. Donc on peut enfourner et on invente la mort en série, puisque Dame Guillotine, ou Sainte Guillotine, comme on disait à l'époque, est là pour justement purifier la France, car on purifie. On purifie, le terme est là. Robespierre, c'est la révolution pure. On a là-dedans tout le, renfermé dans cet article, tout le processus, toute l'idéologie jacobine. Un processus de totalité, totalitarisme. Mais cette révolution, c'est une théocratie aussi. Parce que la laïcité n'est pas une neutralité. La laïcité, c'est la religion de la révolution, avec ses dogmes. Et ce que je dis là, c'est presque un lieu commun, tout le monde le sait. Or, forcément, cette révolution a des prétentions universelles. Elle se trouve face à l'Église qui est hantée sur Rome. Donc il faut décapiter Rome, abat le pape, abat la papauté, et faire quoi? Une église nationale. C'est la constitution civile du clergé. Les prêtres devront prêter serment à la nation, à la loi et au roi. S'ils ne prêtent pas, ce sont des prêtres dangereux. Mais les prêtres réfractaires, qui ne sont pas réfractaires, mais qui sont fidèles à Rome, les autres, c'est ceux qui jurent fidélité à la Révolution. Vous imaginez, on se retrouve finalement presque... Toute comparaison étant égale par ailleurs, dans la situation du chrétien un peu dans l'Empire romain, faut-il prêter serment à l'empereur ou au pape? Il faut obéir à qui? Un principe de totalitaire, une théocratie. Donc, une solution, détruire l'Église. Et la souffrance des prêtres, des religieuses, de l'Église est là pour en témoigner. La Vendée, premier crime contre l'humanité. Puisqu'on parle de crime contre l'humanité, la Vendée, crime contre l'humanité. Il faut supprimer la Vendée. Il y a un plan de destruction planifié par la Convention. Il faut les détruire. Il faut les détruire. Ce sont des traîtres. Et comme toujours, dans tous les crimes, dans tous les génocides, on justifie le crime par le fait qu'ils ont fait quelque chose. Mais on sait très bien qu'on les supprime parce qu'ils sont quelque chose qu'on ne veut pas. Ils ne sont pas purs, ce ne sont pas des révolutionnaires. Il faut les supprimer. Alors, c'est pour ça qu'on détruira jusqu'aux enfants. Jusqu'aux enfants, c'est-à-dire qu'on passera au fil à la baïonnette des bébés. On brûlera des femmes dans des fours à pain, on utilisera toutes les méthodes ignobles, possibles et inimaginables que l'on retrouvera après. Quand certains historiens disent que le génocide de la Vendée, c'est l'archétype de tous les génocides révolutionnaires du XXe siècle, c'est bel et bien vrai. Et alors nous aurons quoi ensuite? Eh bien, les Arméniens, massacrés aussi dans des conditions atroces par les Turcs, gouvernement révolutionnaire, jeune Turc. Les chrétiens arméniens marcheront sur des kilomètres avec des fers à chevaux aux pieds, cloués. Les photos sont insoutenables. J'en ai vu des photos qui ont été prises lors du souvenir arménien qui a été fait l'an dernier à la mairie de d'Oulin, qui a reconnu le génocide vendéen. C'est atroce. La femme qui était là, qui en parlait, ses parents, sa mère, on la voyait dans des photos, qui a été sauvée, une extrémiste. C'est atroce. On a l'impression de voir des photos du génocide perpétré par les nazis aussi. Pareil en 1917 en Russie. Et le communisme et le Cambodge. La révolution a voulu détruire jusqu'à la papauté l'autorité universelle d'une église universelle, créer une église nationale. C'est ce que veut faire la révolution. Même scénario qui se reproduit en Chine. L'État athée veut détacher l'église chinoise du pape. Et Pie XII répondra par l'excommunication de ce schisme. Et le gouvernement maoïste déclenche alors une persécution terrible contre l'église de Chine. Et il mettra l'association patriotique des catholiques chinois, l'équivalent d'un culte et d'une église nationale avec des prêtres jureurs. Le schisme est consommé. Concluons là-dessus. Au prêtre, le Christ avait confié une mission à caractère universel et uniquement spirituel. Prêcher la bonne nouvelle et baptiser dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit. L'évangélisation, nous avons vu, a entraîné un choc culturel pour trois raisons. Le côté inassimilable du christianisme face au syncrétisme païen. De sa distinction du spirituel et du temporel, étranger aux cultures païennes juives et islamiques, et de son universalisme qui lui interdisait de s'identifier à chaque nation, a entraîné les persécutions et le rejet du christianisme. Ce qui n'empêchait pas les chrétiens d'être respectueux de l'autorité de l'État. Si celui-ci tolérait la présence de l'Église catholique, eh bien les chrétiens toléraient l'État. Le type de régime importait peu tant que l'État prétendait ne pas légiférer dans le domaine religieux. Les hérésies et schismes issus du christianisme n'ont pas été exemptes de revendications à caractère national. Et les églises protestantes séparées de l'église universelle sont souvent identifiées à la nation, église anglicane, voire le prince qui se voit confier lui-même le pouvoir spirituel. Il devient un deuxième pontifex maximus en quelque sorte. La confusion des deux cités décrite par saint Augustin, celle de Dieu et celle des hommes, n'a pu entraîner que de terribles tragédies. Saint Augustin le dit lui-même. C'est dangereux, ça va aboutir à une tragédie. L'Église prêchait le royaume céleste pour tous les hommes par la voix du pape, pendant que certains États et régimes déifiaient l'État, voyant en lui la fin de l'homme, et donc son asservissement. Ainsi, tous les systèmes religieux théocratiques ou les États laïcs révolutionnaires ont été source de la plus effroyable intolérance. Et l'intolérance vient de là. Que ce soit les systèmes religieux théocratiques ou les états laïcs révolutionnaires théocratiques et totalitaires eux-mêmes. La société de consommation, pour terminer, de jouissance d'aujourd'hui et l'émergence de l'état-providence, ne sont-ils pas une forme accomplie de messianisme temporel qui permet de se passer de Dieu plus subtilement que la persécution? Voilà un petit peu les éléments que je voulais vous dire là-dessus. Je ne prétends pas avoir épuisé le sujet, je ne prétends pas avoir la clé, donner une tentative d'explication. Merci de votre attention.
Voilà, je remercie donc M. Essertel de sa communication qui nous montre effectivement que lorsque notre Seigneur est arrivé sur Terre, il est venu pour porter le glaive, ce glaive de la contradiction, ce glaive de se dire celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et on le voit que tous ceux qui ont voulu s'attaquer à l'Église ne s'y sont pas attaqués simplement avec des pattes de velours, mais plutôt des matraques et le reste. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser avant que nous puissions laisser la parole à notre prochain intervenant. Tout le monde est sous le charme de... Oui.
question à propos de l'islam. Parce que j'ai entendu même récemment tout l'inverse. C'est-à-dire que est-ce que dans le Coran même, c'est marqué en tout cas qu'il y a le djihad?
Non. 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 C'est en fait. Voilà.
S'il existait,
était
illettré.
Alors effectivement.
Quand le Coran a été écrit, est-ce que c'est plutôt dans les hadiths après?
Voilà. Voilà.
Et dans la pratique, comme vous dites, il y a eu des.
Dans la pratique, Mahomet a. Dans la pratique, Mahomet a été, s'est montré d'une violence et d'une intolérance telle qu'une tribu qui ne voulait pas suivre au début sa pensée, il a fait massacrer toute la population et mettre en esclavage les femmes et les enfants. Une tribu qui était très proche de lui en Arabie, vers Médine, par là-bas. Et, voilà, pas des chrétiens. Et ils ont refusé de le suivre. Donc, dès le début, l'islam naît dans la violence, s'affirme à caractère universel et à un caractère, je ne veux pas dire évangélisateur, mais se donne une mission, mais violente. C'est-à-dire que tout ce qui n'obéit pas, tout ce qui ne rentre pas dans l'un, est éliminé. Et comme il y a une confusion dans le spirituel temporel, parce que finalement l'islam ne distingue pas les deux, évidemment, tous ceux qui s'opposent sont forcément à rejeter. Donc le djihad se dégage comme une tendance, comme un esprit très rapidement de l'islam, une pratique où effectivement, dès le début, si ce n'est pas écrit dans le Coran, on fait la guerre à ceux qui ne sont pas, à ceux qui sont des infidèles, et ces infidèles, il faut les supprimer. Et d'ailleurs, on le voit très vite. Alors après, le terme de djihad sera repris par certains califes, et on le voit repris d'ailleurs au XIIe siècle, lorsqu'il est question de ces pèlerinages en Terre Sainte, parce que le terme de croisade est un terme très tardif qui apparaît plus tardivement vers 1230 ou 40, quelque chose comme ça. Donc on ne parle pas de croisade au début. C'est du pèlerinage armé pour aller défendre les pèlerins. Et là, on parle de reprendre le djihad. Alors, cette notion de djihad, c'est vrai, il faut être clair, ce n'est pas écrit dans le Coran, mais ça fait partie de l'esprit de l'islam et intégrante de cette mentalité, dès le début, de tuer tous ceux qui sont des infidèles. Et tuer tous ceux qui sont les infidèles, faire cette guerre sainte, c'est le djihad, ça se traduit par djihad. Mais ce n'est pas dans le Coran en tant que tel.
C'est une civilisation guerrière.
Oui.
Mais il semble qu'il faut faire une différence entre les hommes du livre et les autres. Parce que ils ont intérêt à pas les tuer s'ils prennent des impôts.
Oui. Oui. Alors, je sais pas. Là, peut-être, j'ai pas compétence véritablement à parler sur l'islam, parce que la seule question, l'aspect qui m'intéressait, c'était son idéologie pour la confronter et comprendre les relations, mais c'est vrai. Alors, on peut constater aussi que l'islam n'est pas monolithique dans ses comportements, parce que Haroun el-Rachid, par exemple, calife de Bagdad, aux alentours du 8e siècle, est quelqu'un tout à fait remarquable et qui établit des relations avec Charlemagne, parce qu'il est en bisbille, si on veut, avec le calife de Cordoue en Espagne, et que ça va pas avec Charlemagne, lui ça va pas avec le calife de Cordoue, donc on s'allie ensemble. Du coup, le calife Haroun el-Rachid envoie les clés du Saint-Sépulcre à Charlemagne. Bon, les choses sont pas monolithiques. Néanmoins, je crois que de manière générale, on constate que si les missionnaires et les catholiques et les chrétiens n'ont pas se sont pas comportés comme persécuteurs vis-à-vis de l'islam, là où était l'islam. D'ailleurs, les musulmans le disent eux-mêmes dans les textes. J'ai lu, certains musulmans disent, c'est scandaleux, vous vous rendez compte comment les chrétiens se comportent avec les musulmans, ils les respectent dans les états latins, ils font ceci et ça, et chez nous, on n'est même pas capable de donner un tel exemple et tout. Alors ça fait du mal à l'islam, il y en a qui ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que les princes chrétiens dans les croisades, ben, ils font leur état, mais on ne persécute absolument pas parce que le prince, il est là pour défendre la Terre Sainte et tout. Les populations qui se sont notées, ils se sont autorités. Même les croisés qui viennent, les soldats, vous aurez des alliances matrimoniales entre francs et puis syriennes, voire musulmanes d'ailleurs, arméniens, arméniennes, etc. Il n'y a pas de racisme. Mais employons le terme, il n'y en a pas, il n'y a même pas de xénophobie. On a pu dire qu'il y avait une politique d'apartheid de la part des croisés vis-à-vis de l'islam. Alors, l'apartheid, dans quel sens faut l'entendre? Pas dans le sens raciste, faut l'entendre dans le sens développement culturel séparé. C'est-à-dire que les croisés sont là, ceux des militaires, ils sont là pour défendre la Terre Sainte et pèlerins. Ce qui se passe culturellement à côté, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Quoi, savoir s'il y a une culture ceci, s'intéresser, s'intégrer, c'est pas leur problème. Alors, dans ce sens-là, peut-être, oui. Je ne verrais pas ça comme une critique ou quelque chose de négatif. C'est pas leur rôle, ils ne sont pas là pour ça. Néanmoins, il y a eu des relations entre les uns et les autres. Alors, les relations entre islam et chrétiens sont des relations très, très différentes. Et je pense que l'islam, est, comme certains l'ont dit, est pluriel. Maintenant, aller plus loin sort de mes compétences au niveau de l'islam.
J'aurais une autre chose, c'est plus une critique, j'espère positive. On avait entendu Green parlait sur la sorcellerie.
Oui.
Il me semble que, tout en disant la même chose que vous,
oui.
En gros,
oui.
Sur qu'il était essentiellement pays protestant et hautement du protestantisme, la sorcellerie existe bel et bien, et c'est pas que des fous. Hein.
Alors,
il existe des.
Oui, alors, attention, il y a une sorte. Alors, j'ai pas le temps de développer l'aspect, mais il distingue deux sorcelleries. La sorcellerie traditionnelle, culturelle, avec des espèces, non pas des sorts, mais comment dire, des femmes qui font une espèce de médecine locale, et puis des gens qui soignent, etc. Ça, l'Église n'a jamais poursuivi ça, elle n'a jamais persécuté, c'était pas son affaire. La deuxième sorcellerie, qui est celle diabolique, avec le sabbat et tout, l'Église n'y a jamais cru. L'Église institutionnelle à l'époque, pour une bonne part des inquisiteurs, n'y croyaient pas, ils ne voulaient pas rentrer là-dedans, n'y croyaient pas. Or, il semble que ce modèle de la sorcière avec du sabbat est très tardif. Il n'existe pas dans les textes au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, comme dit Guy Bechtel, est une période saine, intelligente. Le peuple ne croit pas à ces choses-là. Il croit bien au diable, à l'enfer, il n'y a pas de problème. L'Église, pas de problème. Mais ce genre de choses, ça ne l'intéresse pas. Et en fait, il note que la sorcellerie naît dans un milieu intellectuel humaniste de la Renaissance et qu'il était diffusé par l'imprimerie. D'ailleurs, il met en cause énormément l'imprimerie. Il dit l'imprimerie, on la présente toujours comme positive. Finalement, l'imprimerie a joué un rôle négatif parce qu'elle a diffusé un certain nombre de clichés qui se sont répandus très rapidement. Or, il semblerait, il le présente comme tel, alors je ne suis pas compétent pour juger de la sorcellerie en tant que tel, mais il semblerait quand même qu'il y ait eu un modèle qui se soit très vite imposé sur le type de la sorcière avec son balai, ses onguents et ses choses de genre un peu partout, et que c'était dans des ouvrages, et que les juges avaient des ouvrages, et qu'ils faisaient avouer à la sorcière ce qu'il y avait finalement un peu dans le livre, et qu'on aboutit à des procès où la sorcière ne pouvait jamais s'en sortir, parce que qu'elle aille dans un sens ou dans un autre, non, alors on a pour ça persécuté, torturé et mis à mort des prêtres, des religieuses. Et ça se passe, il dit bien, dans une période qui correspond à ces années 1500 et quelques et 1600 et quelques, c'est-à-dire sur un petit siècle, et qu'après c'est fini, il n'y a plus de procès de sorcellerie, c'est-à-dire qu'on la considère. Alors il ne s'agit pas de nier, d'une certaine manière même, l'existence de la sorcellerie, il s'agit de dire que c'est complètement aberrant de considérer que ces femmes sont dangereuses, et ce sont les tribunaux civils qui ont été atroces avec elles, pas les tribunaux ecclésiastiques. L'Inquisition ne voulait pas avoir les. D'ailleurs, même l'Inquisition parfois prenait des sorcières et les relâchait. Elle disait, quand on lui déférait, elle disait, ben non, elle faisait un procès puis elle relâchait. On n'en parlait plus, on disait, elle ne peut plus aller, hop, terminé, etc. Donc l'affaire était réglée. En Italie, c'est pareil. Et le premier décret interdisant définitivement la sorcellerie, les procès de sorcellerie, disons que c'est ridicule, c'est un décret du pape. Le premier. C'est le premier, la première institution à dire, ça suffit. C'est complètement délirant, ce genre de choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la sorcellerie en tant que telle, au niveau pratique. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est difficile à savoir. Néanmoins, il est intéressant de noter, dans la thèse de Bechtel, c'est qu'au niveau statistique, ça correspond aux zones de fracture entre catholicisme et protestantisme. Et souvent dans des états, des caricatures d'états, où on a une confusion du temporel et du spirituel. C'est ça qui m'apparaît. Je ne dis pas que c'est la seule explication, mais c'est une explication que donne pas Guy Bechtel et qui m'a paru intéressante et qui rentrait un peu dans mon propos. Voilà.
Autre question ?
Vous avez parlé de la distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, mais moi je pense au problème de la monarchie française et tout particulièrement de Charlemagne.
Oui.
Pourquoi j'en parle, c'est parce que je viens de lire la biographie de Charlemagne écrite par Jean Bavier.
Oui.
Et alors justement, on dit que Charlemagne aurait, si vous voulez, dans toutes ses guerres, eu l'idée de convertir et d'amener les populations au christianisme. Et d'autre part, il aurait pris certaines positions au niveau liturgique avant Rome. Alors justement, c'est là où est la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.
Très bien, c'est une excellente question parce qu'elle tombe très bien dans le sujet. Charlemagne a voulu jouer un rôle d'un souverain quasi biblique. Sur le plan dogmatique, il a voulu jouer un rôle. Il s'estimait empereur chrétien catholique et il avait un très grand respect pour l'Église. Ceci dit, ce qu'il a fait n'est pas, c'est loin de là, une œuvre négative, et je ne juge pas comme telle, au contraire, elle est positive. Il a voulu que la cité nourrie de l'esprit se faisant lire Saint-Augustin, la cité de Dieu, il a voulu distinguer les deux, mais il a voulu que la cité terrestre marche en conformité avec la cité de Dieu. Alors il avait le souci d'une certaine perfection, et comme souverain très chrétien, persuadé de son rôle, il a voulu jouer un rôle dans l'Église. Néanmoins, il n'a jamais été bien accepté ce rôle par les clercs qui étaient autour de lui. Lorsqu'il part contre les Saxons, il veut évangéliser. Alors, c'est un but louable en tant que roi chrétien, il peut, l'Église lui en fait presque le devoir de cette évangélisation. Ce que va lui reprocher Alcuin, c'est d'avoir voulu forcer par moments la conscience des Saxons, qui entraîneront des révoltes. À terme, Vitukind va se convertir, il aura Charlemagne comme parrain, ça se terminera bien, et Charlemagne pacifiera, et il a fait une œuvre remarquable. Ce qu'on lui a reproché, ce que lui a reproché Alcuin, c'est d'avoir parfois confondu un peu violence militaire et d'avoir forcé les conversions, parce qu'on ne force pas les consciences. Donc d'avoir outrepassé son rôle de prince chrétien pour devenir un évangélisateur un peu par la force par moment. Alors c'est ce qu'il lui a reproché. Alcuin aimait énormément Charlemagne, et Charlemagne aimait Alcuin. Mais il lui a dit, le pape lui reprochera, attention, on ne force pas les consciences, lui dit le pape. Donc c'est là, si vous voulez, c'est un excès, on pourrait dire. C'est un peu le péché ou l'excès de la qualité, c'est un peu le défaut de la qualité. L'aspect du livre carolin sur les images et les interventions dans le Filioque de Charlemagne ont été difficilement acceptés par le pape lui-même, Léon III. Il a bien aimé Léon III, il a remis Léon III sur le trône pontifical contre les Byzantins, Léon III s'est justifié et il a couronné l'empereur. Mais de faire accepter le Filioque dans le credo, le pape hésitait. Donc évidemment, on peut dire ici que comme pour Théodose et saint Ambroise, on a la candeur du prince chrétien, la fougue du prince chrétien, son prosélytisme qui a tendance un peu à dépasser certaines limites, et l'Église lui rappelle qu'il n'a pas de droit là-dedans, en fait. Et ça sera tout le conflit entre les patriarches et les empereurs à Constantinople. Il n'y a pas de césaropapisme à Constantinople. C'est une ânerie qui a été inventée, encore une fois, par Voltaire, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve à la base des bêtises, dont il a été fait justice par les historiens, les spécialistes de la question. Or, il n'y a pas, je le vois même dans les bouquins du secondaire récemment sur Byzantin, ce qui est au programme, la théocratie byzantine. Mais enfin, c'est une aberration. Il y a l'empereur, il y a le patriarche. Et quand l'empereur outrepasse ses droits, ça barde avec le patriarche, hein, ça va pas. En face de l'imam qui est chef spirituel et temporel, il n'y a personne pour hurler, pour lui dire arrête tes bêtises, bon, allez hop, tu fais amende honorable, pénitence. Non. Quand dans le christianisme, il y a les deux qui avancent parallèlement vers un même but, dans leur propre domaine, mais il y en a un qui peut outrepasser ses droits. On tombe dans un excès, dans le péché de l'homme. Et ça, l'Église rappelle quelles sont les normes. Quelles sont les normes? C'est ça la différence. C'est pour ça que ce point que vous soulignez est très important. Il vient conforter ce que je disais, d'autant plus, ce que je disais sur Théodose aussi, cette distinction entre les deux. On verra même un empereur, je ne sais plus lequel, Léon IV, Léon VI, un empereur byzantin, qui a osé se remarier, puis se remarier, c'était interdit à Byzance. Il y avait un veuvage, alors peut-être qu'une fois, mais enfin deux fois ou trois fois, ça suffisait, donc ce n'était pas permis. Et il outrepasse les canons de l'Église. Le patriarche lui dit, vous ne rentrerez dans l'Église que lorsque vous aurez fait amende honorable. Et l'empereur va aller à Sainte-Sophie, se mettre à genoux et de la cendre sur la tête devant tout le monde, pour demander pardon de son péché. Vous voyez ça, on voit ça en islam, on voit ça dans un autre régime, etc. On a bel et bien une distinction. Alors qu'il y a eu des conflits entre les deux, d'accord, mais j'appelle ça un conflit de ménage. Un conflit de ménage entre pouvoir spirituel et temporel qui doit vivre ensemble, que cohabiter. La cohabitation n'est pas toujours facile. Les caractères sont différents. Il y a des caractères de cochon. Il y en a qui sont plus doués. Il y en a qui sont moins doués. Il y en a qui ont plus de culture. Donc ça va plus ou moins bien. Comme entre le pape et les empereurs ou les rois. Et la monarchie française, pareil, on va y venir dessus. Jamais en France, le souverain de droit divin, parce qu'il est sacré, n'a outrepassé ses droits en rentrant dans le domaine dogmatique. Il est empereur dans son royaume, comme disait Saint Louis. Moi, dans mon domaine, le pape dans son domaine. Mais j'ai devoir d'appliquer les lois de l'Évangile, parce que je suis roi sacré, et d'être un roi très chrétien. C'est là qu'est mon devoir. Vouloir rentrer après dans le théologique, pour le prince, c'est rentrer dans le domaine spirituel qui n'est pas le sien. En revanche, au temporel, il y a ces distinctions. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en donnant ces contre-exemples, je conforte un peu mon propos, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, j'ai répondu à votre question, j'espère. Oui.
Vous parlez de Saint-Louis, justement.
Oui.
C'est Saint-Louis s'est effectivement, en sens inverse, élevé contre une ingérence trop grande de l'Église dans son royaume.
Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison. Il dit au pape, chacun dans son domaine, errance. Donc c'est le problème toujours de cette... Il y a une ligne, il ne faut pas que je la franchisse. Alors le pape peut la franchir, le roi peut la franchir. En fait, on arrive... Alors ce fameux conflit, par exemple, dans l'Empire, où on a la fameuse affaire... voilà, querelle d'investiture dans l'Empire. L'histoire ancienne en a fait la montée ça en mayonnaise, en a fait toute une histoire, mauvaise mayonnaise, et maintenant ça retombe à plat parce que ceux-là se rendent compte que c'est ni plus ni moins une querelle de ménage. C'est-à-dire que l'empereur veut outrepasser ses droits vis-à-vis de la papauté, il veut avoir un rôle dans la nomination des papes. Les papes disent non, c'est pas votre rôle, il faut distinguer. Et en fait, c'est là où se situe peut-être la difficulté en histoire dans l'histoire religieuse du christianisme et pour l'Église, c'est où s'arrête l'autorité de l'un, où commence celle de l'autre et vice-versa. Et c'est là où les deux essayent de cohabiter, parce qu'on définit les domaines d'intervention des uns et des autres. Les concordats, par exemple, entre François Ier, concordat de Bologne 1516, et le pape Léon X. Les concordats entre les papes et le pouvoir, de façon à pouvoir quand même arriver à s'entendre sur des points pratiques. Mais vous êtes dans votre domaine, vous êtes dans l'autre. En revanche, on voit évidemment Henri VIII outrepasser carrément, devenir pape. Et là, effectivement, il y a usurpation d'un pouvoir qui n'est pas le sien. Donc là, effectivement, on est vraiment au cœur du problème.
Et je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Dominique Vien, qui va nous faire une conclusion donc de notre colloque.
Monsieur l'abbé Larocque a fait ressentir à son public, après l'excitation intellectuelle de la journée, si j'ose dire, selon les grandes règles de la rhétorique cicéronienne, on termine dans la méditation, la pause, pour intérioriser tout ce qui a été dit. Et de ce point de vue-là, la journée aura été une magnifique réussite. Et d'autre part, il est difficile d'arriver à conclure en faisant la synthèse encore sur le vif de tout ce qui a été dit. Et je crois tout de même avoir trouvé un mot directeur, et ce sera très court, rassurez-vous, quelques minutes. J'emprunte une citation à notre ami Essertel. Rien n'est simple. Ce que je traduirai en langage plus scolastique, distinguo. Et je crois que finalement, si l'on fait le bilan de la journée, tous les orateurs ont distingué continuellement. Et parce que précisément rien n'est simple, et surtout pas dans le combat que nous menons. Si je reprends les différentes allocutions, et je commencerai par Dominique Vien, réservant M. l'abbé Verdet pour la fin. Dominique Vien a essayé de distinguer ce qui était de foi, ce qui était de science, ce qui était l'intangible de la révélation divine, et ce qui était le relatif, le contingent du travail humain. Et par là même, c'est une distinction de la nature et de la grâce, du naturel et du surnaturel qui est faite, et qui n'est pas toujours facile à faire, puisque, me semble-t-il, on l'a montré ce matin, l'extrême nouguette du fondamentalisme ou du scientisme, même si les nuances qu'il a apportées n'étaient pas toujours très claires et très limpides. Il n'est pas possible d'envisager la Bible, d'être un exégète ou même un chrétien si l'on ne distingue pas. Avec l'allocution de Bénédicte de Donsure, c'était le même problème. Parmi la foultitude de reliques qui circulent depuis 2000 ans en histoire de l'Église, quelle que soit d'ailleurs la piété qu'elles ont pu susciter partout et dont le bon Dieu seul est juge, le devoir de l'intelligence et de la vérité, c'est de distinguer les vraies des fausses. Et comment les distinguer? Sur des critères de raison et des critères aussi de foi, bien sûr. Et le Saint-Suaire, dont M. Essertel s'est fait le porte-parole depuis des années, et aussi à travers cette communication, est précisément cette extraordinaire unité de ce qui est distinct, à savoir les souffrances d'un homme, qui est aussi Dieu, d'un objet qui est objet de science dans un ordre, mais témoin de foi dans un autre ordre, puisque c'est la résurrection. Ensuite, Yannick Essertel a suivi la même démarche, finalement, parce que son thème conducteur, son fil conducteur, qui reste, comme il a dit lui-même, à approfondir, à creuser, car c'est une idée très très intéressante et à mon sens vraiment originale. Les persécutions contre notre Sainte Église ont été majoritairement le fait de gens qui ne veulent pas distinguer le règne de César et le règne de Dieu, qui ne veulent pas distinguer les exigences de la nature et les exigences de la foi. Encore une fois, c'est toujours distinguer qui est la marque de l'orthodoxie. Béatrice Brugère, de même, me semble-t-il, dans un aveu d'impuissance par certains côtés, mais cet aveu d'impuissance est un aveu de découverte, nous a dit substantiellement, il est difficile de distinguer la secte de ce qui n'est pas secte. Il est difficile de faire le distinguo pour définir, et le mot définition est revenu très souvent dans sa bouche, ce qui est erreur de ce qui est vérité, hormis, en dehors de la seule vérité qui est l'Église. Et elle a bien montré, c'est un plaisir d'entendre ça dans la bouche d'une magistrate, elle a bien montré l'embarras des pouvoirs publics laïcs qui font la chasse aux sectes, alors qu'elles ne peuvent pas distinguer une secte. Elles n'en ont pas le pouvoir philosophique, et donc, a fortiori, elles n'en ont pas le pouvoir juridique. L'abbé de la Roque, en terminant cette journée, lui aussi a distingué. Et il a distingué, je crois, d'une manière qui nous appelle à une plus grande charité. Il a distingué au milieu de combats qui pourraient être ingrats, ou qui pourraient manquer à la charité, ou qui pourraient être au contraire naïvement ouverts à toutes les dérives. Il a distingué le bon grain de l'ivraie dans le cœur de prêtres qui ne nous sont pas forcément immédiatement proches. Il y a la foi, nous a-t-il dit, chez des gens qui ne sont pas de notre fraternité. Inversement, il y a le démon dans le cœur d'hommes qui sont déguisés en pasteurs, et nous devons continuellement distinguer pour ne pas nous tromper d'adversaires, ne pas nous tromper de futurs amis. Et ce qu'il a dit sur une autre fraternité montre que d'autres prêtres aussi font les distinctions nécessaires pour le bon combat. Et je termine par le début, c'est-à-dire la communication de M. l'abbé Verdet ce matin, qui a aussi distingué, d'une manière toute sacerdotale et spirituelle et théologique, la misère de l'Église, citant Bernanos, la misère de nous-mêmes, notre fatigue, notre lassitude, nos dégoûts, la misère du peuple qui s'amasse sous le porche de l'Église, et la sainteté glorieuse de l'Église qui, elle, est immarcessible, qui ne peut pas être entachée. Et finalement, en dernier instance, si l'on fait le bilan de la journée, nous distinguerons, nous aussi, me semble-t-il, le découragement provisoire d'un combat qui a vu humaine, nos deux pasteurs nous l'ont dit, est un combat désespéré, et la certitude qui est d'un autre ordre, et que nous distinguons bien, nous, qui avons la foi, la certitude de la victoire prochaine.